Vous savez qu'elle est décédée la semaine dernière à l'âge de 88 ans. Son livre s'appelle Un don et il a été traduit de l'américain par Anne Wick. Il a été publié en 2010 et là, notre édition se date de 2018. C'est la collection Domaine étranger de 10-18. Quelques mots sur l'auteur. En 93, elle a eu le prix Nobel de littérature et l'a invitée et ainsi j'ai eu droit en consultant internet à avoir un interview assez long qui date de 2016 et on voit c'est Emmanuel Giuliani, le remerciant là, qui a fait le compte-rendu de cette prestation qu'a fait Toni Morrison, une grande figure de la littérature afro-américaine. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà certainement, et sans comme moi, en mesurer toute l'ampleur. Et le livre va nous permettre de le faire. Elle était invitée à visiter le Louvre. Elle a eu une réaction étonnante devant le radeau de la Méduse. Je le rappelle d'autant plus qu'on parle maintenant beaucoup de ces bateaux qui meurent en Méditerranée. Et elle dit que ce qu'elle voit là, c'est une dérive de l'homme abandonné qui n'a plus que son propre corps comme chez soi. Voilà ce qu'elle dit du radeau de la Méduse. C'est une vision, évidemment, qui n'était pas du tout la nôtre et qui nous montre à quel point elle est hantée par son mot d'ordre, étranger chez soi. C'est ce qu'elle dit dans toutes ses œuvres. Et j'ai hésité dans la citation, le naufragé n'a que son propre corps comme ultime chez soi. Revenons sur sa personne. Elle est née en 31 et est dans la ville de Lorain, une petite ville de l'Ohio. Et c'est une famille pauvre, mais elle fait quand même des études à l'université Howard de Washington. Elle se fait appeler d'un sobriquet amusant, la Howard Noire. Howard, jeu de mots. Et c'est ainsi, elle se marie en 58, mais elle divorce en 64 avec un architecte, Harold Morrison, qui lui donne son nom. Car son nom d'origine, c'était Chloé Anthony Wofford, du nom de celui qui l'a acheté. Parce que c'est une esclave qui a été libérée. Son entrée en littérature commence en 70. Ça fait un moment déjà, mais avec l'œil le plus bleu, mais il n'y a pas tellement de succès. Elle se décourage pas et le succès vient avec Sulla et avec le chant de Salomon et Beloved. Et je vous ai parlé du prix Nobel, mais elle a eu le prix Pulitzer en 88 et c'est un fait qui est le sujet du livre. Ça a été de Beloved, c'est un fait qui est réel et qui a été adopté au cinéma en 98. J'ai parlé là de la militance par l'écriture, mais elle est aussi par son engagement et elle a soutenu. Ça, on voit qu'elle n'a pas peur d'être contre tout le monde. Elle a soutenu Bill Clinton au moment de l'affaire Lewinsky. Je ne sais pas sur quel thème, la croix pudique, toutes ces choses-là, n'en dit rien. Et je n'ai pas eu le temps de voir une autre présentation du personnage. S'il y a des mises au point à faire, je le ferai avec Dominique la semaine prochaine. Et donc, elle a pris parti pour Bill Clinton à ce moment-là, et puis au moment de l'affaire Lewinsky, et après l'élection de Trump, elle a publié un article dans New Yorker, en deuil de la blancheur, c'est pas joli, en deuil de la blancheur. Elle avait un espoir dans certaines catégories de blancs, et bien là, on est en deuil, dit-elle, de la blancheur. Et son idée, elle a une façon bien particulière, Il faut pas que je cherche dans la lecture un écho, par exemple, du pouvoir noir. Elle n'est pas comme ça. C'est pas quelqu'un de sectaire du tout. Et elle se demande, c'est la grande question qu'elle pose, comment humilier, bafouer, ignorer, on parvient à reconquérir sa dignité sans pour autant dénigrer l'autre, l'autre avec un grand A. Voilà donc la mentalité telle qu'elle s'est présentée cette année-là, en 2016, à Paris, lorsqu'elle a été invitée. Et aujourd'hui, enfin, avant sa mort, elle était titulaire d'une chaire de lettres anglaises à l'université de Princeton. Voilà donc ce que l'on peut dire d'elle, en espérant que c'est assez complet. Et on va voir qui est celle qui est l'objet d'un colon à un autre colon. Et c'est ainsi qu'elle dit « Tout commence avec des chaussures ».
Tout commence avec les chaussures. Enfant, je ne peux pas supporter d'être pieds nus et je supplie sans cesse pour avoir des chaussures, les chaussures de n'importe qui, même par les journées les plus chaudes. Ma mère, Aminia Mai, fronce les sourcils. Elle est en colère à cause de ce qu'elle appelle mes manières de coquette. Seules les mauvaises femmes portent des talons. Je suis dangereuse, elle dit, dangereuse et sauvage. Mais elle finit par se calmer et me laisse porter les chaussures dont la seigneur ne veut plus, à bout pointu, avec un des talons cassés, l'autre bien usé et une boucle sur le dessus. Résultat, dit Lina, mes pieds sont inutiles, ils seront toujours trop tendres et n'auront jamais les plantes solides, plus dures que du cuir qu'exige la vie. Lina a raison. Florence, elle dit, on est en l'an 1690. Qui d'autre, à notre époque, a les mains d'une esclave et les pieds d'une grande dame portugaise? Donc, quand je pars pour aller te chercher, elle et mistress me donnent les bottines de sœur, qui vont à un homme, pas à une fille. Elles les bourrent de foin et de feuilles de maïs huileuses et me disent de cacher la lettre dans mon bas, même si le seau de cire me démange. Je sais lire, mais je ne lis pas ce qu'écrit mistress. Lina et Sorrow ne savent pas lire, mais je sais ce que cela veut dire et ce qu'il faut que je dise à quiconque m'arrête. La tête me tourne de la confusion de deux choses, la faim de toi et la peur si jamais je me perds. Rien ne m'effraie plus que cette mission et rien n'est plus proche de la tentation. Depuis le jour de ta disparition, je rêve et je complote pour savoir où tu es et comment m'y rendre. Je veux m'élancer sur la piste, sous les hêtres et les pins blancs. Mais je me demande, dans quelle direction? Qui me le dira? Qui vit dans ces étendues sauvages entre notre ferme et toi? Et m'aideront-ils ou me feront-ils du mal? Et les ours sans squelette de la vallée? Tu te souviens? Quand ils marchent, leur pelage qui flotte, comme s'il n'y avait rien en dessous? Leur odeur nie leur beauté. Et leurs yeux nous reconnaissent du temps où nous étions aussi des bêtes sauvages. Tu me dis que c'est pour cela qu'il est fatal de les regarder dans les yeux. Car alors, ils s'approchent, ils courent vers nous pour nous aimer et pour jouer avec nous, ce que nous lisons mal, et nous leur renvoyons de la peur et de la colère. Des oiseaux géants nichent aussi là-bas, qui sont plus gros que des vaches, dit Lina. Et tous les indigènes ne sont pas comme elle ajoute. Alors fais attention. Une sauvage qui prie, c'est comme ça que les voisins l'appellent, parce qu'elle va à l'église, mais pourtant elle se baigne tous les jours, ce que les chrétiens ne font jamais. Sous ses vêtements, elle porte des perles bleues vives et danse au secret aux premières lueurs, quand la lune est encore petite. Plus que la peur des ours amoureux ou des oiseaux plus gros que des vaches, je crains la nuit, quand il n'y a plus de chemin. Comment, je me demande, pourrais-je alors te retrouver dans le noir ? Pour l'heure, enfin, il y a un moyen. J'ai des ordres. Tout est arrangé. Je verrai ta bouche et dessinerai ton corps de mes doigts. Tu poseras à nouveau ton menton dans mes cheveux pendant que je respirerai au creux de ton épaule. Respirer, souffler, respirer, souffler. Je suis heureuse que le monde s'ouvre pour nous. Pourtant, cette nouveauté me fait trembler. Pour te retrouver, je dois quitter la seule maison et les seules personnes que je connaisse. Lina dit que, d'après l'état de mes dents, je dois avoir 7 ou 8 ans quand on m'a amenée ici. Off.
Voilà. Cette introduction, elle n'a pas un titre, un titre de chapitre, indique bien, et dans un enchevêtrement terrible, tous les grands thèmes du livre. Ah, je commence, moi, parce que je m'accroche à quelque chose que je peux repérer. C'est 1690, c'est-à-dire que ce n'est pas encore l'époque de la grande, grande traite négrière, mais on voit quand même, et on le verra dans la deuxième lecture, comment elle a été donnée, puisque le don, c'est elle. Alors, la seconde question qu'on pose quand on entend cette lecture, c'est qui est le « tu » à qui elle s'adresse. On le saura bien longtemps après. C'est un forgeron qui est venu aider son maître en forgeant une belle grille de fer et un beau portail dont elle est éperdument amoureuse. Et à ce sujet, le second point qui fait mystère, c'est la mission et le fait qu'elle dise « on a rempli les bottes de sœurs avec une missive et avec du foin ». Et ça la ramène bien plus loin dans sa vie, à l'âge de 20 ans, où elle doit aller chercher le forgeron qui a quitté leur terre pour qu'il puisse guérir celle qu'elle appelle « mistress », c'est-à-dire la femme de celui qui l'a achetée. Et alors, un peu d'histoire, j'ai fait en notant qu'on était en 1690. Hein, c'est pas encore le grand moment de la traite des Noirs, mais on voit comment justement ça se fait, ça se produit. Et il faut ajouter une indication géographique. Où est-ce que ça se passe ? Nous sommes en Ohio et l'origine de cette traite, c'est la colonie portugaise de l'Angola qui fait du commerce et du commerce d'esclaves. Et mention aussi est faite, c'est la troisième remarque et dernière que je ferai, des trois personnages principaux. Florence, c'est celle qui parle, celle qui est en première de couverture avec des pieds nus, Lina et Soro, qui sont deux autres esclaves féminines. Et tout commence par des chaussures, je terminerai par là pour présenter Florence. C'est le contraire de ce qu'on dit des Noirs. Les enfants noirs dans la colonisation française, ils venaient à l'école pieds nus et on leur interdisait, on leur disait il faut mettre des souliers, il faut avoir les pieds corrects comme les Occidentaux. Et elle, c'est le contraire. Elle veut avoir des chaussures et sa mère, Minia Mae, qui veut plaire au patron, ne veut pas le faire. Et comment se fait-il justement que les chaussures vont être déterminantes dans son existence? C'est que vient un certain Jacob. Jacob, j'ai oublié son nom de famille, mais ça m'en viendra, qui vient prendre de l'argent parce qu'il est employé pour la compagnie des Indes occidentales et il vient prendre de l'argent à l'actuel maître de Mina Miae et de sa fille. Et le maître lui fait visiter toute la plantation dans l'Ohio, c'est une plantation de tabac. Et il ne veut aucun esclave parce qu'il lui propose, puisqu'il ne peut pas le payer, et bien de le payer en chair humaine. Et là, alors, il dit qu'il veut, il voit tous les esclaves, que ce soit le groupe des hommes, le groupe des femmes, dont aucun n'ose croiser son regard, c'est interdit. Et il arrive dans les cuisines et il voit Mina Mae avec un petit garçon tout enfant sur sa hanche. Et là, la jeune Florence, et il regarde pas la jeune Florence, il ne voit que la cuisinière, c'est une esclave de cuisine, et il dit c'est celle-là que je veux. Et la femme lui dit non, je vous en prie, non, prenez ma fille et laissez-moi ici avec l'enfant. Et à ce moment-là, il regarde Florence, s'aperçoit qu'elle a des chaussures de sa patronne avec un talon cassé sur une des chaussures. Et il finit par, après avoir dit non, il finit par accepter la transaction. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il va quitter ce pays-là pour rejoindre. Elle va quitter avec Jacob Wack. Elle va quitter le pays et avoir une traversée très dure pour aller du Portugal à l'Ohio, qui est la plantation d'où elle parle pendant tout le livre. Et ce qui se passe sur le bateau est terrible. L'entassement des gens, le fait qu'elle raconte après qu'elle a dû faire ses besoins devant 50 personnes. Et c'est ce qui se passe sur le bateau qui montre aussi toute une diversité de l'esclavagisme. Personnellement, moi, je connais l'histoire de Manon Lescaut qui était envoyée là parce qu'elle était de mauvaise vie. Mais là, il y en a beaucoup qui vont, et dont le mistress, pour simplement se marier. Et la plantation, c'est celle que vient visiter Jacob Wark, j'ai retrouvé son nom. Elle s'appelle Giuglio, et nous sommes en 1680, en Virginie, et c'est une réflexion de Jacob qui vient chercher son argent pendant le repas chez un certain Ortega, c'est le maître de la plantation, c'est à la page 27.
Ils avaient 6 enfants, dont 2 étaient déjà assez grands pour être à table avec eux. 2 garçons sages comme des pierres, de 13 et 14 ans, portant perruques, à l'instar de leur père, comme s'ils étaient à un bal ou à un tribunal. L'amertume qu'ils ressentaient, Jacob le comprenait, était pitoyable. Elle était le résultat du fait que lui-même n'avait pas de survivants, mâles ou autres. Maintenant que sa fille, Patricia, avait suivi ses frères morts, il n'y avait plus personne pour récolter le modeste mais respectable héritage qu'il espérait accumuler. Et donc, étouffant son envie comme on lui avait appris à le faire à l'hospice des indigents, Jacob se divertit en pensant aux failles qu'il imaginait dans l'union de ce couple. Il semblait bien assorti, vaniteux, lascif, plus fier de leurs étains et de leur porcelaine que de leur fils. La raison pour laquelle d'Ortega avait autant de dettes était très claire, évidente. Troquant ses bénéfices contre d'inutiles colifichets, absolument pas gênés par le somptuaire, les bas de soie et une femme trop élégamment vêtue, gâchant les chandelles à midi, il serait toujours incapable de supporter le moindre revers, qu'il s'agisse d'un navire perdu ou d'une récolte détruite. En les observant, Jacob remarqua que ni le mari ni la femme ne se regardaient jamais, mis à part quelques coups d'œil furtifs quand l'autre regardait ailleurs. Il n'aurait su dire ce qui se cachait sous ses regards subreptices, mais cela l'amusait d'imaginer le pire, tandis qu'il devait suborder ce bavardage stupide et incompréhensible et ses plats immangeables. Il ne souriait pas, il grimaçait. Il ne riait pas, il gloussait. Il les voyait méchants avec les domestiques et obséquieux avec les prêtres. Sa gêne initiale, due aux conséquences inévitables de son long voyage, bottes boueuses, mains sales, transpiration, odeur, fut compensée par le lourd parfum et le visage trop poudré de la maîtresse d'Ortega. Le seul et mineur soulagement lui vint de la femme fleurant bon le clou de girofle qui servait la nourriture.
Et c'est celle qu'il voudra emmener.
C'est la cuisinière.
Ouais, ouais. Alors, s'ensuit une visite de la plantation qui est fort bien organisée, hein, et s'ensuit la tractation à la suite de laquelle il accepte d'emmener Florence avec lui, Florence et ses chaussures en paiement. Et pendant son voyage du retour, il est sur un cheval qu'il a loué et qu'il va rentrer dans une auberge. Il se trouve à table dans l'auberge avec des gens aux allures un peu patibulaires, mais qui ont l'air de bien s'y connaître, et qui parlent de la Barbade où il y a des plantations. Et il se dit, ma ferme ne me rend pas assez, ne me donne pas assez d'argent, je n'ai pas besoin d'esclaves, parce que je ne les veux pas à côté de moi. Il a eu une discussion avec d'Ortega, et qu'il faut son pesant d'or. D'Ortega lui dit, mais pourquoi vous achetez pas une plantation? Et lui, en anglais presbytérien, il dit, ah mais non, nous on fait pas du commerce, on fait pas du commerce d'hommes, et il veut pas. Mais le temps du voyage du retour jusqu'à son auberge, il se dit que dans sa ferme, il a beaucoup de mal, et c'est une des raisons pour lesquelles il accepte aussi d'employer Soro et la jeune Florence pour aider sa femme qu'il a trouvée au sortir d'un bateau. Et là, on voit le passage de l'ancien fermier à celui qui, de loin, va avec de l'argent faire du commerce triangulaire. Un petit rappel peut-être pour le commerce triangulaire, les bateaux partent des ports occidentaux, les ports hollandais, les ports français, Bordeaux, les anglais, non, pas tellement. Ils vont en Afrique et ils chargent des plantations et ils vont faire du commerce ensuite. Ils chargent les productions des plantations ou la canne à sucre ou le tabac.
Ils chargent les esclaves en Afrique.
Oui.
Oui. Et ils les emmènent en Amérique, et en Amérique, ils prennent les produits des plantations, le tabac et la canne à sucre.
Merci, tu me remets d'aplomb, oui, en effet. Et c'est ainsi qu'il se dit qu'il pourrait bien devenir plus riche pour améliorer son genre de vie. Et puis, bien qu'il se moque d'eux, il envie la splendeur de la maison du planteur d'Ortega. Voilà comment on voit se mettre dans la tête de Jacob ce qui se passe. Et on va maintenant entreprendre l'étude d'une autre ligne de force du roman qui était bien présente avec le tu mystérieux de la première lecture. C'est l'histoire de Florence avec le forgeron. Cela commence, vous allez l'entendre, par un coup de foudre, 48.
Tu ne sais probablement rien du tout de ce à quoi ton dos peut ressembler, quoi que le ciel puisse contenir, le soleil ou le lever de la lune. C'est là que je repose, ma main, mes yeux, ma bouche. La première fois que je le vois, tu es en train de nourrir le feu avec un soufflet. Le brillant de l'eau glisse le long de ta colonne vertébrale et je me choque moi-même de me rendre compte que je voudrais bien la lécher. Je cours me réfugier dans l'étable pour tenter d'arrêter ce qui se produit en moi. Rien n'y fait. Il n'y a que toi. Rien en dehors de toi. Mes yeux, et non mon estomac, sont la partie affamée de mon être. Il n'y aura jamais assez de temps pour regarder comment tu bouges. Ton bras se lève pour frapper le fer. Tu te baisses sur un genou, tu te penches, tu t'arrêtes pour verser de l'eau, tout d'abord sur le fer et ensuite dans ta gorge. Mais avant que tu saches que je fais partie de ce monde, je suis déjà tuée par toi. Ma bouche est ouverte, mes jambes sont molles et mon cœur est tendu à se rompre. La nuit vient et je vole une chandelle. Je porte une braise dans un bol pour l'allumer, pour voir davantage de toi. Lorsque c'est allumé, je protège la flamme de ma main. Je te regarde dormir. Je regarde trop longtemps. Je suis imprudente. La flamme me brûle la paume. Je pense que si tu te réveilles et que tu me vois te regarder, je vais mourir. Je m'enfuis en courant, ne sachant pas alors que tu me vois bien te regarder. Et lorsqu'enfin nos regards se rencontrent, je ne meurs pas. Pour la première fois, je suis en vie.
C'est beau, hein, c'est la fin. Pour la première fois, je suis en vie. Et le forgeron, il ne restera pas dans le domaine. Il partira et elle partira à sa recherche. Donc, l'histoire n'est pas encore finie. Mais on va parler aussi de ce qui se passe pour elle et quand elle va le chercher. Bien des années après, il y a une épidémie de variole ou de peste bubonique dans la maison, et le forgeron a réussi une première fois il y a longtemps à guérir quelqu'un, c'était pas une épidémie de la peste, et elle voudrait aller le rechercher pour qu'il guérisse Mistress. Jacob, lui, est déjà mort. C'est pas la première fois, on va voir, qu'on parle d'une épidémie, parce qu'elle raconte, c'est ce que va raconter Lina à son tour. Et donc nous laissons partir Florence vers le nord pour aller chercher le forgeron, et nous en venons à Lina, et c'est elle qui va parler dans le chapitre suivant. Le livre est fait de chapitres consacrés à la vision des choses, de sa vie, de la plantation, des différents personnages. Et elle aperçoit Lina, donc c'est elle qui parle, et elle a été victime d'une épidémie qui a frappé son village, tout le village. Et c'est ainsi qu'on voit l'histoire d'une autre esclave.
Ils l'appelèrent Messalina, mais abrégèrent le nom en Lina pour signaler un petit éclair d'espoir. Craignant de perdre son abri, une fois de plus, terrifiée à l'idée de se retrouver seule au monde, sans famille, Lina accepta son statut de païenne et se laissa purifier par ses bonnes âmes. Elle apprit ainsi que se baigner nue dans la rivière était un péché, que cueillir des cerises à un arbre ployant sous le poids des fruits était un vol, que manger de la bouillie de maïs avec les doigts était pervers, que Dieu haïssait l'oisiveté par-dessus tout, et que, par conséquent, regarder dans le vide à la recherche d'un espace où pleurer une mère ou une amie revenait à encourir la damnation. Se recouvrir de peau de bête offensait Dieu. Ils brûlèrent donc sa robe en peau de cerf et lui en donnèrent une autre, faite de bon drap de laine. Ils lui enlevèrent les perles qui ornaient ses bras et lui coupèrent plusieurs centimètres de cheveux. Ils ne lui permettaient certes pas de les accompagner à aucun des services dominicaux auxquels ils assistaient, mais elle participait à leurs prières quotidiennes, avant le petit déjeuner, en milieu de matinée et dans la soirée. Céder, supplier, implorer ou prier à genoux ne servit pourtant à rien, parce que, en dépit des efforts acharnés, la Messaline à tapis en elle émergea malgré tout, et les presbytériens l'abandonnèrent sans même un murmure d'adieu. Ce fut quelque temps plus tard, alors qu'elle balayait avec des branches le sol de terre battue chez sœur, en faisant bien attention d'éviter la poule qui couvait dans un coin, seule, pleine de colère et de chagrin, qu'elle décida de se rendre plus forte en rassemblant les fragments de ce que sa mère lui avait enseigné avant de mourir dans la souffrance. Se fiant à sa mémoire et à ses propres capacités, elle rafistola les rites négligés, mélangeant les remèdes européens et indigènes, les saintes écritures et le folklore, et retrouva ou inventa le sens caché des choses. Elle trouva, en d'autres termes, une manière d'être dans le monde. Il n'y avait ni réconfort ni endroit pour elle dans le village. Sœur était à la fois là et pas là. La solitude l'aurait anéantie si elle ne s'était pas lancée dans le savoir-faire des ermites pour devenir une créature de plus à évoluer dans le monde naturel. Elle craillait avec les oiseaux, bavardait avec les plantes, parlait aux écureuils, chantait pour la vache et ouvrait la bouche pour recueillir l'eau de pluie. La honte d'avoir survécu à la destruction de toutes ses familles s'estompa lorsqu'elle fit le vœu de ne jamais trahir ni abandonner ceux qu'elle chérissait ou avait chéri. Les souvenirs de son village habité par des morts se transformèrent lentement en cendres, et à leur place, une image unique apparut. Le feu, si rapide, qui dévora si délibérément ce qui avait été construit, ce qui avait été la vie, d'une certaine façon purificateur et d'une beauté scandaleuse. Même devant un simple âtre ou en soufflant sur une flamme pour faire bouillir de l'eau, elle ressentait un doux tiraillement d'agitation.
Voilà, voilà l'âme de Lina. Elle est un peu sorcière, cette Lina. Et à noter, elle vient d'un village qui a été décimé par une épidémie. Elle a été recueillie par des presbytériens qui ont essayé de la convertir, mais ils n'y sont pas arrivés. Ce qu'elle dit, ce qu'elle a reçu de sa mère ressort, et elle va elle va devenir une guérisseuse et elle s'occupe très très bien de la jeune Florence et notamment elle lui raconte des histoires extraordinaires, notamment l'histoire de l'aigle. Alors l'histoire de l'aigle, c'est 78.
Je vois pas d'histoire d'aigle à la page 78, mais
Des histoires intéressantes. Lina raconte aussi l'histoire de l'aigle. Et c'est au moment où elle veut rassurer Florence qui a de grandes angoisses. Alors bon, voilà, suis trompée.
On va aller par là, ça fait rien. Attends. Florence soupirait alors, la tête posée sur l'épaule de Lina. Et lorsque le sommeil venait, le sourire de la petite fille s'attardait sur ses lèvres. Le désir de mère, en être une ou en avoir une, toutes deux étaient étourdies par ce besoin qui, Lina le savait, demeurait bien vivant et circulait dans les eaux. Florence, en grandissant, apprit très vite, fut très désireuse d'en savoir plus, et elle aurait été la personne parfaite pour retrouver le forgeron, si seulement elle n'avait pas été handicapée par sa vénération pour lui. Lorsque Mistress choisit de se rendre folle en regardant son visage dans le miroir, Lina ferma les yeux pour chasser cet imprudent appel à la malchance et quitta la pièce. Toute une série de tâches attendait, et comme toujours, Sorrow était introuvable. Lina entra dans l'étable et jeta un coup d'œil sur le traîneau cassé dans lequel, par temps froid, elle et Florence dormaient. À la vue des toiles d'araignée s'étirant des lames à la nacelle, Lina soupira, avant de retenir son souffle. Les chaussures de Florence, celles en peau de lapin qu'elle lui avait confectionnées 10 ans plus tôt, se trouvaient sous le traîneau, solitaires et vides comme deux cercueils patients. Bouleversée, elle quitta l'étable et se tint immobile sur le seuil. Où aller ? Elle ne pouvait supporter l'apitoiement sur elle-même qui poussait Mistress à tenter des esprits maléfiques. Elle décida donc de chercher Sorrow près de la rivière, là où elle allait souvent, pour parler à son bébé mort.
Voilà, je vais vous raconter l'histoire de l'aigle, faute d'avoir la lecture qui serait bien plus belle. Comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, elle est toute pleine des choses de la nature, que ce soit les rochers, l'herbe, les arbres et aussi les animaux. Et là, elle raconte l'histoire d'une aigle immense, qui a des petits qui sont immenses aussi, mais qui un jour se trouve en face d'un chasseur qui dit « mien, mien, mien », autrement dit, il dit que ce pays est le sien. Tu me fais un signe ?
Oui, j'ai retrouvé l'histoire de l'aigle, c'était à la page d'avant. Alors, un jour, une femelle aigle dépose ses œufs dans un nid, bien hors de portée des serpents et des pattes qui les convoitent. Ses yeux brillants sont noirs comme à minuit alors qu'elle les surveille. Au tremblement d'une feuille, à l'odeur d'une autre vie, son froncement se fait plus fort. Sa tête se secoue vivement et ses plumes se soulèvent avec lenteur. Ses serres ont été aiguisées sur la roche. Son bec est comme la faux d'un dieu guerrier. Elle est farouche. Elle protège ses petits en train de naître. Mais il est une chose contre laquelle elle ne peut se défendre, les mauvaises pensées des hommes. Un jour, un voyageur gravit une montagne proche. Il se tient sur le sommet et admire la vue en contrebas. Le lac turquoise, les pruches séculaires, les étourneaux qui planent dans les nuages coupés par un arc-en-ciel. Le voyageur rit devant toute cette beauté en disant « Voilà, c'est parfait, tout cela est mien ». Et le mot se gonfle, résonne comme le tonnerre dans les vallées, au-dessus d'arpents de primes verts et de mauves. Des créatures sortent de grottes en se demandant ce que cela veut dire « Mien ». Mien, mien. Les coquilles des œufs de l'aigle tremblent et l'une d'elles se craquelle même un peu. L'aigle tourne la tête afin de découvrir la source de cet étrange et insensé coup de tonnerre, ce son incompréhensible. Repérant le voyageur, elle lui fond dessus pour lui arracher son rire et son bruit si peu naturel. Mais le voyageur, attaqué, soulève son bâton et frappe l'aigle à l'aile de toutes ses forces. Tout en hurlant, elle tombe et tombe encore, au-dessus du lac turquoise, au-delà des pruches séculaires, à travers les nuages coupés par un arc-en-ciel. Elle hurle et hurle encore, alors qu'elle est emportée, non pas par ses ailes, mais par celles du vent.
Voilà comment se termine d'histoire de l'aigle, mais l'histoire n'est pas terminée. Parce qu'elle dit, la et petite fille dit, qu'est-ce qu'il est, où il est, où elle est l'aigle ? Et il continue sa descente.
Elle tombe toujours. Et les œufs ? Ils se couvent tout seuls, dit Lina. Ils vivent ? Le murmure de Florence était très inquiet. Nous l'avons bien fait, dit Lina.
Voilà. Donc on va pouvoir écouter de la musique avant que commence une lecture très différente, vous allez entendre des autres.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I'm found. Was blind, but now I can see.
Amazing grace, how sweet the sound
that saved
a wretch like me.
I once
was lost,
but now I'm
found.
But now
I was blind, but now I see.
Oh,
amazing grace. Amazing grace.
It was nothing but your amazing grace.
Amazing grace.
Galère, galère, nous continuons la lecture de Un don de Toni Morrison et nous allons voir surgir un personnage dont nous avons parlé mais qui n'est pas un personnage déterminant dans le récit comme sont les trois autres dont nous avons parlé, les trois esclaves. C'est Rebecca et en effet son statut n'est pas du tout le même. Son père était batelier sur la Tamise et il avait beaucoup de mal à nourrir sa fille.
Et alors, Rebecca, c'est une mistress, en
quoi?
Fait. Rebecca, c'est mistress.
Mistress. Ouais, c'est mistress. C'est et oui, j'aurais bien dû le dire, tu fais bien de le rappeler. Et la distraction, elle raconte, c'était d'aller voir les exécutions. Ils aimaient bien voir la personne qui allait être pendue et quelquefois suppliciée avant. Ça faisait partie de l'existence et elle décide, pour gagner un peu d'argent et soulager son père du souci de la nourrir, de se placer comme domestique. Mais elle ne supporte pas les avances du maître et elle s'enfuit. À ce moment-là, elle est vendue. Et elle raconte la traversée avec notamment un groupement de femmes. Et c'est là qu'on peut faire la comparaison avec ce que on nous dit de Manon Lescaut et de Desgrieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Page 98.
Sept autres femmes avaient été affectées à l'entrepont sur l'Angélus. En attendant d'embarquer, tournant le dos à la brise mordante arrivant de la mer sur le port, elle tremblait au milieu des caisses, des baillis, des passagers du pont supérieur, des charrettes, des chevaux, des gardes, des mallettes et des enfants en larmes. Pour finir, lorsque les passagers des ponts inférieurs furent appelés à embarquer, que leur nom, leur pays d'origine et leur métier furent enregistrés, quatre ou cinq femmes dirent qu'elles étaient servantes. Mais Rebecca avait tout de suite compris, dès qu'on les avait séparés des hommes et des femmes des classes supérieures, pour les conduire dans un espace sombre, dans la cale à côté des stalles des animaux. La lumière et le temps du dehors pénétraient par une écoutille. Un baquet pour les déjections était posé près d'un tonneau de cidre. Il y avait un panier et une corde grâce à laquelle la nourriture pouvait être descendue et le panier récupéré. Quiconque dépassant les 5 pieds devait se courber et baisser la tête pour se déplacer. Il devenait plus facile de ramper une fois que, comme les vagabonds des rues, elles avaient délimité leur espace personnel. Les bagages, les vêtements et les accents, les attitudes disaient clairement qui elles étaient bien longtemps avant leur confession. L'une d'elles, Anne, était envoyée au loin en disgrâce par sa famille. Deux autres, Judith et Lydia, étaient des prostituées auxquelles il avait été demandé de choisir entre la prison et l'exil. Lydia était accompagnée de sa fille, Patty, une petite voleuse de 10 ans. Elisabeth était la fille, c'est en tout cas ce qu'elle disait, d'un agent important de la compagnie. Une autre, Abigail, fut rapidement transférée dans la cabine du capitaine. Et une autre encore, Dorothea, était une vide-gousset condamnée au même choix que les prostituées. Seule Rebecca, dont le passage était payé d'avance, allait se marier. Les autres seraient accueillis par des parents ou des artisans qui paieraient pour leur voyage, sauf la vide-gousset et les prostituées, dont les frais et l'entretien seraient remboursés par des années et des années de travail non rémunéré.
Voilà comment se fait le commerce de femmes. Tu continues, ça va. Eh bien, à l'arrivée, elle voit Jacob, donc celui qui l'a acheté. Il raconte qu'il y avait une liste, femmes de tel âge, pas malades. Et puis, sur Rebecca, il était écrit qu'elle était vierge et qu'elle savait faire la cuisine. Il a dit, oh, mais c'est celle-ci qu'il me faut. Et c'est ainsi qu'il l'a. Il la retrouve à la sortie. Il la trouve à la sortie du bateau, et il est dit que il est très correct avec elle. Il a voulu une femme pour l'aider à la ferme, mais en définitive, et pour satisfaire ses besoins. Mais en fait, elle dit que quand il a besoin d'elle, il est quelqu'un qui demande et pas quelqu'un qui estime que tout lui est dû, le service sexuel entre autres, hein. Et seulement bien des années après, alors qu'elle a bien accepté Soro, Lina et Florence pour l'aider, eh bien elle est saisie, il y a une épidémie de peste et elle est prise par la peste, Jacob aussi, et il meurt, et c'est ainsi que il ressort chez elle le besoin de trouver dans un coffre des cadeaux que lui a fait Jacob dont elle ne s'est pas servie, parce que par exemple il lui a offert un service à thé en argent dont elle ne s'est jamais servie, et aussi un miroir, et elle veut regarder à quoi ressemble sa figure maintenant qu'elle a été touchée par les bubons de la peste. Et là Lina essaye de toutes ses forces de lui arracher le miroir des mains. Et il semble qu'elle ait été marquée par des pratiques vaudou, mais on ne sait pas, il n'est pas du tout dit dans le roman d'où elle vient. Ça fait partie de la condition des esclaves, qu'il n'ait pas d'identité. Et à ce moment-là, d'ailleurs, dans ce chapitre où c'est Rebecca qui parle, eh bien, c'est Lina qui prend la parole. Et on voit une méditation sur la vie après la mort, page 119.
La vie après la mort était plus que divine. Elle était pleine de frissons. Il ne s'agissait pas du paradis bleu et or d'un cantique de louange éternelle, mais d'une vraie vie aventureuse, où tous les choix étaient parfaits et parfaitement accomplis. Comment l'avait décrite la femme pieuse à laquelle elle parlait ? Il y aurait de la musique et des fêtes, des pique-niques et des promenades en charrette à foin. On s'amuserait. Des rêves devenus réalité. Et peut-être, s'il en était vraiment engagé, réellement dévot, Dieu prendrait-il pitié et permettrait-il que ses enfants à elle, bien que trop jeunes pour un baptême par immersion totale, puissent entrer dans son monde. Mais le plus important, c'était le temps. Tout le temps. le temps de converser avec les élus, de rire avec eux, de patiner même sur les étangs gelés, tandis qu'un feu crépitant attendrait sur la berge pour réchauffer les mains. Les clochettes des traîneaux tinteraient et les enfants fabriqueraient des maisons de neige et joueraient avec des cerceaux dans la prairie, parce que le temps serait ce que vous vouliez qu'il fût. Pensez-y un peu. Voilà. Imaginez, simplement. Plus de maladies, jamais. Plus de douleurs. Plus de vieillissement ni de faiblesse quelconque. Plus de pertes, de chagrins ou de larmes. Et évidemment, plus de morts. Pas même si les étoiles se brisaient en poussière et si la lune se désintégrait comme un cadavre au fond de la mer.
C'est pas beau cette vision du paradis à nous faire croire dans la vie éternelle. Elle nous donnait envie d'accéder à la vie éternelle. Et c'est ainsi qu'elle se représente en effet l'éternité qui est la vie de maintenant, la vie qu'elle vit mais parfaite, avec tous les plaisirs qui lui sont interdits en tant qu'esclave. On va retrouver ensuite, Florence, qui pense à Lina, et Lina qui lui raconte son aventure, et elle poursuit, elle, sa route vers le nord pour aller à la recherche du forgeron. Il lui arrive une drôle d'aventure. Elle est reçue dans une maison, autour de maisons et d'un hameau où toutes les lumières sont fermées, chez la femme, une femme mystérieuse qu'elle appelle la veuve, et dont la fille est couchée sur un lit avec de sombres yeux noirs pour regarder Florence d'un air méchant et haineux. Et le matin, il arrive un groupe de gens, visiblement, qui veulent exorciser la fille, mais ils se rabattent sur Florence, ils la font se déshabiller et elle est traumatisée par cette inspection pour savoir si elle est bien conformée comme une fille ou bien si elle a un sexe en plus, un sein en plus et un cerveau en plus. Et seulement, elle arrive à s'enfuir et on va pouvoir avoir la lecture de ce que dit Soro. Et Soro, elle a été sauvée par des bûcherons à la suite d'un naufrage. On ne sait pas d'où elle vient. Et elle s'invente un double qu'elle nomme Twin. Bon, c'est une façon que décrit Toni Morrison de surmonter une situation qui est horrible. Et c'est là que Sœur, c'est-à-dire Jacob Wask, la retrouve et il l'emmène. Il l'emmène parce qu'il a le souvenir en lui d'avoir été un enfant perdu, orphelin. Et on voit là une pente humanitaire, une pente tendre qui apparaît, parce que tous ceux qui sont là ont eu une enfance très difficile, une enfance privée de parents. Elle dit des deux femmes, là, Soro et Florence et Lina, que l'une est prise... Elles sont à la recherche d'une mère, l'une pour être mère et l'autre pour retrouver la sienne. C'est un des thèmes qui marque le livre. Sauvée par le bûcheron, elle va être servante, mais elle n'est pas du tout zélée comme servante. Et les gens sont bien contents que Sœur l'emmène. Et là. Lina voudrait bien avoir un enfant. Mistress a eu deux enfants, deux petits garçons, mais qui sont morts. Et elle, l'enfant, on a l'impression que Lina va l'enlever, l'enfant de Soro, et le noyer alors qu'il est encore vivant. Il y a une phrase terrible. Elle revoit son bébé qui boit, qui respire de l'eau dans la paume creusée de Lina. Hein, quelque chose de mystérieux sur ce personnage de Lina, à travers Soro, qui Lina qui aime tant le feu, et qui peut-être, eh bien, est un infanticide. Mais c'est pas laissé... le mystère n'est pas levé, on ne sait pas. Et ce que ensuite elle note, c'est qu'elle a la peste, mais le forgeron la guérit. Et c'est à cause de cette première guérison que Florence va se mettre en route pour retrouver le forgeron. Et elle va donner le jour à une fille, aidée des deux garçons, page 149.
Ni Sorrow ni Twin n'avaient vraiment réussi à savoir quoi penser du forgeron. Il paraissait accompli, ignorant l'effet qu'il produisait. Était-il le danger que Lina voyait en lui ou la peur qu'elle ressentait n'était-elle que pure jalousie? Était-il le parfait partenaire de sœur pour la construction de la maison ou était-il la perdition de Florence, altérant son comportement du franc au sournois? Elle ne s'était pas encore décidée lorsque Sorrow, qui revenait du ruisseau un seau d'eau à la main, s'effondra, brûlante et tremblante, près du chantier. La chance pure voulut que le forgeron fût là et la vit tomber. Il la souleva et la posa sur la paillasse sur laquelle il dormait. Les bras et le visage de Sorrow étaient zébrés de marques. Le forgeron toucha les furoncles de son cou, puis il cria. Sœur pointa la tête par le cadre de la porte et Florence approcha en courant. Mistress vint aussi et le forgeron demanda du vinaigre. Lina partit le chercher et quand elle l'apporta, il en arrosa les furoncles et la peau du visage et les bras de Sorrow, la plongeant dans des spasmes de douleur. Les femmes avaient le souffle coupé et Sœur demeurait le sourcil froncé. Ensuite, le forgeron chauffa un couteau et ouvrit un des bubons. Ils regardèrent tous en silence tandis qu'ils versaient quelques gouttes du sang de Sorrow entre les lèvres de la jeune fille. Tous pensèrent qu'il valait mieux ne pas la garder dans la maison. Et donc, Sorrow resta à transpirer dans un hamac jour et nuit, sans aucune nourriture ni eau, tandis que les femmes l'éventaient tour à tour. La brise constante des éventails fit surgir le vent marin, ainsi que le capitaine, la main posée sur le gouvernail. Elle l'entendit avant de le voir. Il riait, un rire fort, rauque. Non, il ne hurlait pas, il hurlait. Avec les autres, aigus et graves, les hurlements étaient lointains, de l'autre côté des nuages blancs qui l'entouraient, des chevaux aussi, donnant des coups de sabot, libérés de la cale, qui sautaient au-dessus des sacs de grains et renversaient les tonneaux, brisant les douves et déversant une épaisse noirceur sucrée. Mais elle ne pouvait toujours pas bouger ni transpercer les nuages. Poussant, poussant, elle tomba sur le sol, tandis que les nuages la recouvraient et l'étouffaient, la persuadant que les hurlements étaient en fait les cris des mouettes. Lorsqu'elle revint à elle, des yeux de la forme et de la couleur des siens la saluèrent. Les nuages gonflés, qui n'étaient vraiment plus maintenant que de simples filaments, s'éloignèrent. « Je suis là, » dit la fille au visage parfaitement semblable au sien. « Je suis toujours là. »
Voilà, voilà comment le rêve se mêle à la réalité. C'est de plus en plus vrai au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Sachez qu'elle retrouve le forgeron, qu'il part à la plantation et qu'il va guérir. Il arrive à guérir Mistress, qui ne sera jamais vraiment guérie. Et à son retour, les choses se passent très mal parce qu'elle croyait qu'il allait l'emmener avec elle, mais c'est qu'il lui a laissé un enfant et qu'il a adopté en quelque sorte, toujours parce que il est saisi de pitié pour un enfant qui est un orphelin. Et elle, pendant qu'il fait son second voyage et qu'elle l'attend pour pouvoir vivre avec lui, alors c'est le côté un peu romancé de l'histoire, et bien l'enfant qu'il a laissé avec elle ne l'aime pas du tout. Il s'appelle Makai, je sais plus son nom. Malaïk. Malaïk. Et on ne sait pas bien si elle le tue. On voit la violence qui répond à la violence parce qu'il refuse tout d'elle et elle lui casse le bras en lui tirant son bras et il tombe, il se heurte au coin de la table et par conséquent, et c'est la fin du roman d'amour entre le forgeron et Florence, le forgeron dit « Va-t'en, je te chasse, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi » et elle va revenir auprès de Mistress qui est guérie mais toujours très faible. Galère, galère, c'est la fin de ce roman. J'ai choisi le fil du roman d'amour, le tue, le forgeron et elle, mais on s'aperçoit surtout de cette énorme diversité, tant géographique que de conditions de l'esclavage avant le grand moment de la traite des nègres. Ah oui, c'était Toni Morrison, Un don.
Le don.
Je ne sais plus.
Un don.
Bon, ne me brouille pas.
Alors, c'est Toni Morrison, Un don.
Voilà. Galère, nous vous disons, Dominique et moi, parce que François ne serait pas là, à mercredi prochain, avec Jojo le gilet jaune.
Ah oui, ça va changer.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.